France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, presque un service d'urgence sur 5 obligé de réduire la voilure par manque de personnel. La crise s'aggrave dans les hôpitaux publics et privés. Ce sera un des premiers dossiers du gouvernement Borne. Qui sera nommé cet après-midi, près d'un mois après la réélection d'Emmanuel Macron. Autre dossier, pour préserver les budgets des 43% de locataires chez les Français, le blocage des loyers peut-il être une solution? Débat dans ce journal. La réplique russe à l'adhésion attendue de la Finlande à l'OTAN, plus de livraison de gaz à partir de demain. Selon les renseignements britanniques, Vladimir Poutine a licencié une série de généraux mécontents de la conduite de la guerre. À 13h30, au 01 45 24 7000, toutes vos questions sur l'histoire et la culture de l'Ukraine. Autre regard sur ce pays avec les deux autrices du dictionnaire amoureux de l'Ukraine. Vous pouvez appeler tout de suite. Dans ce journal encore, beaucoup de réservations pour des mariages en France, effet rattrapage après les confinements. Doctolib et les révélations du service investigation de Radio France, il y a un choix à faire entre l'efficacité du service et la protection de nos données. La météo, après la chaleur, les orages, déjà des dégâts en Mayenne et dans la Sarthe, alerte en région parisienne et dans le Nord. Vos chroniques, 13h50, dernier épisode du feuilleton dans les jardins partagés de Lille. Patrick cultive une parcelle avec ses petits-enfants.
Vous voyez, tous mes haricots que j'ai plantés, ils ont planté à chaque fois 4 ou 5 graines dans le sillon que j'avais fait. Ils avaient 6 et 5 ans.
C'est la transmission, en fait.
La transmission, tout à fait.
Et ensuite, dans le vif de l'histoire, portrait d'un homme clé pour le développement de ces jardins partagés, Jean-Auguste Lemire, abbé et député, il y a un siècle. Et puis dans C'est une chanson, une bandoneoniste, Louise Jalut, elle choisit Jean Jaurès de Jacques Brel. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Et un de plus, un service d'urgence supplémentaire fermé la nuit, sauf à passer par le SAMU. Et encore, il y aura un seul médecin aux 15 pour les 3 nuits à venir à l'hôpital d'Arles. Là aussi, manque de personnel. Jérémy Chanchou est membre du collectif Interurgence, aide-soignant à l'hôpital d'Arles.
C'est un drame en fait ce qui se passe et on le dénonce depuis bientôt 3 ans et tout ça bien avant l'arrivée du Covid. Ils ont dénoncé les hospitalisations brancards, les gens qui attendaient des fois pendant 24 heures, 48 heures sur un brancard avant d'être pris en charge. Et là en fait on voit que 3 ans plus tard, malgré un Ségur de la santé, tout ça ne s'arrange pas et bien au contraire, ce qui se passe à Arles, c'est jamais arrivé. On n'a jamais fermé les portes du service des urgences. En fait on travaille beaucoup en mode dégradé, ça veut dire qu'on travaille avec du personnel en moins, donc déjà qu'aux urgences c'est bien connu, on attend longtemps, et bien là on attend encore plus longtemps. Quoi. On n'est pas en mesure d'accueillir les patients en toute sécurité, donc on est obligé de fermer.
Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Voilà pour Arles, on ouvrait ce journal mardi avec le même genre de propos catastrophés d'un soignant bordelais. Un nouveau décompte, Hélène, estime à 120 les services hospitaliers contraints de limiter leur activité ou qui s'y préparent pour les urgences, même si l'ampleur n'est pas la même partout.
Oui, selon l'association SAMU Urgences de France, un établissement sur 5 serait touché. Cela concerne le public mais aussi le privé. Tous ne sont pas perturbés de la même manière. Certaines urgences se voient supprimer une ligne de garde, ce qui signifie qu'il y a moins de personnes pour accueillir les patients. D'autres vont fermer ponctuellement la nuit ou le week-end. Une soixantaine d'hôpitaux ont déjà dû y avoir recours. Enfin, dans les situations les plus critiques, certains services ferment sans date de réouverture. Une situation exceptionnelle, notamment parce qu'elle touche les plus gros établissements, souligne Louis Soula, porte-parole de l'association SAMU Urgences de France.
Ce qu'on avait l'habitude de considérer, c'était des petits établissements, entre guillemets, avec une activité entre 20 000 et 25 000 de passage pour les urgences. Aujourd'hui, c'est plus vrai, des très grosses structures sont impactées. On a entendu beaucoup parler de ce qui se passe à Bordeaux, et c'est un peu la même problématique à Grenoble, à Marseille également, avec des départs massifs de praticiens. Donc aujourd'hui, les grosses structures ne sont plus épargnées.
Sur la répartition géographique, aucune région n'est aujourd'hui épargnée. Ce qui inquiète beaucoup, c'est que ces difficultés pouvaient arriver ponctuellement l'été et qu'elles sont déjà présentes et de façon généralisée dès le mois de mai. Pour les soignants, l'accès à la continuité des soins, c'est le dossier auquel devra s'attaquer là où le futur ministre de la Santé dès sa nomination.
Et oui, car la nomination des nouveaux ministres, le nouveau gouvernement Borne, c'est pour cet après-midi. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Alexis Colère, secrétaire général de l'Élysée, égrènera les noms dans les heures à venir.
Oui, sur le perron du palais, il y aura une certaine solennité plutôt que le simple communiqué de presse. Toujours pas de précision en revanche, Bruno, sur l'horaire. Comme toujours, Emmanuel Macron prend un malin plaisir à entretenir l'incertitude, voire l'insécurité, l'angoisse pour les premiers concernés, jusqu'à la dernière minute. Alors vous allez me demander quelle sera la composition
s'il vous plaît, oui, maintenant,
premier gouvernement Borne. Je vais vous la donner. Non, je plaisante. Les rumeurs, les listes plus ou moins farfelues, évidemment, continuent de circuler, mais impossible à vérifier. Silence radio chez les ministrables. Plus personne ne répond. Ils savent que jusqu'au bout, une langue un peu trop pendue peut coûter un poste qui semblait acquis. Une seule quasi-certitude tout de même, sauf surprise, c'est Olivia Grégoire qui deviendra la nouvelle porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire avec Jean Castex. Elle devrait prendre la place de Gabriel Attal, qui devrait lui rester dans l'équipe, mais à un autre poste. Une équipe d'une vingtaine de ministres, au maximum, selon plusieurs sources, qui sera complété après les législatives et même modifié si des ministres sont défaits dans leur circonscription. Et selon Jean-Luc Mélenchon, c'est justement pour minimiser le risque qu'Emmanuel Macron a fait traîner l'annonce du gouvernement, une manière d'empêcher, dit le chef de la NUP, d'empêcher les candidatures de riposte face aux futurs ministres ralliés au président, puisque, vous le savez Bruno, l'heure limite pour le dépôt des candidatures aux législatives, c'est ce soir à 18h.
On en parlera tout à l'heure avec Antoine Gignoux. Alors ce gouvernement qui sera donc nommé dans les heures à venir, qu'en attendent les entreprises? Question posée par Nicolas Demorand au président du MEDEF, le syndicat patronal, invité de France Inter ce matin. Et Geoffroy Roux de Bézieux répond en dressant un tableau de l'économie en France et même au-delà en ce printemps 2022.
On a devant nous un énorme défi qui est celui de la transition écologique et climatique. Il y a les problèmes de comptes publics. On a beaucoup dépensé à juste titre pendant le Covid et maintenant il faut arrêter le quoi qu'il en coûte. Enfin voilà, donc il y a un certain nombre de sujets. Je mets la transition écologique en premier.
Dites-nous, selon vous, Geoffroy Roux de Bézieux, si l'économie française est en train de ralentir, si elle est en train de caler et si vous êtes inquiet.
Tous les patrons que je vois, quelle que soit la taille, le secteur, me disent, bon là, jusque-là, ça va, le mois de mai se passe bien, mais avec tout ce que je vois à l'horizon, je m'inquiète. Tout ce que je vois à l'horizon, c'est quoi? C'est d'abord des problèmes de pénurie, qu'on n'est pas prêt de résoudre, parce que ce qui se passe en Chine avec la stratégie zéro Covid va faire que, comme on est trop dépendant de la Chine, on va avoir des problèmes d'approvisionnement. Des problèmes d'inflation de matières premières, sans parler de problèmes de main-d'œuvre. Donc oui, je pense que la croissance est en train de ralentir. On est dans un monde qui est en train de bouger. Il y a aussi quand même un phénomène qui est très marquant, c'est le repli des zones géographiques. La Chine est en train de se replier sur elle-même. Et donc l'Europe doit trouver en son sein, y compris en relocalisant, ses propres ressources.
Et même si le pire n'est jamais sûr, ajoute Geoffroy Roux de Bézieux à ce tableau assez sombre, on pourrait ajouter le coup de chaud de ce mois de mai qui fait peser une menace sur les récoltes dans une série de secteurs agricoles. Une illustration, ces tonnes de fraises que les producteurs jettent en ce moment. Elles sont mûres trop tôt, trop petites, pas de goût, pas rentables pour les producteurs, prix divisé par deux. Reportage d'Émilie Briffaut, France Bleu Provence, chez un couple de producteurs de l'étang de Berre. 14 ans qu'ils bichonnent le petit fruit rouge. L'année n'est pas la meilleure, Émilie.
Et pour le vérifier, Michel et Stéphanie m'emmènent sous l'immense serre là où sont produites 20 tonnes de fraises par an, des sifflorettes et des clairies qui cette année souffrent des fortes chaleurs. Ça se voit à la taille et à la couleur.
Là, elles sont petites, hein. Elle rougit trop vite en fait, si vous voulez. Donc elle n'est pas rouge intense, elle est plutôt rouge marron, enfin de mauvaise qualité.
Et il n'y a pas que l'aspect qui change, le goût n'est pas non plus au rendez-vous.
Le fruit, il n'a pas le temps de grossir, il n'a pas le temps de prendre du goût. Donc du coup, il manque du sucre, elle n'est pas au top.
Trop petite, trop abondante et pas assez sucrée, avec une première conséquence sur le prix.
Généralement, le prix, en gros, on est entre 5 et 6 euros le kilo. Depuis 15 jours, on est plutôt entre 2,5 et 4 euros. Moitié moins, c'est énorme. Mais c'est vrai qu'on a du mal à mettre ça sur le marché, donc on préfère les jeter.
Jeter plutôt que brader, le couple n'a pas vraiment le choix.
Mes filles jettent des kilos tous les jours. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez toutes ces poubelles qui sont là tout autour, parce que ben, tous les gens sont obligés. C'est invendable, quoi. C'est du second choix, ça. Même brader, ça vous paye quoi? Les emballages, à la limite, mais bon, c'est non. Même les fraises à confiture, non, même pas.
Seule consolation pour le couple, les fraises de la deuxième récolte, elles arrivent dans un mois environ, et pour l'instant, les fruits semblent de bien meilleure qualité.
Et après la chaleur, les orages, ils ont cogné fort en Mayenne ce matin. Le plafond d'une école primaire s'est effondré au Bignon du Maine. Il n'y a pas de blessés. Beaucoup de routes inondées, réseaux électriques et feux de signalisation endommagés en Mayenne. Les orages ont fait des dégâts dans la Sarthe également. Mais au rayon alimentaire, on parlait des fraises à l'instant. C'est plutôt la hausse des prix qui menace. Elle pourrait dépasser les 6% en juin, selon l'INSEE. Alors l'alimentaire, l'énergie, l'immobilier aussi. De quels outils pourra servir le gouvernement pour contenir contenir les différentes hausses. Il est un outil que mettent en avant les associations en ce moment, c'est le gel des loyers, ou plutôt de l'indice de référence des loyers qui permet leur révision et suit l'évolution de l'inflation. Alors ce gel pourrait-il figurer dans le projet de rectification du budget cet été? Jean-Yves Manot, qui préside l'association de consommateurs CLCV, plaide pour.
C'est une décision extrêmement importante pour le pouvoir d'achat de millions de Français. 43% aujourd'hui sont locataires et ont du mal à faire face aux augmentations successives de l'ensemble des postes contraints sur le plan budgétaire et une hausse massive des loyers qui normalement suit l'inflation de 48% aujourd'hui, mais nous savons déjà au mois de juillet ça sera près de 5%, ce qui est énorme. Et donc nous souhaitons que le gouvernement prenne une décision de gel des loyers, facilitant ainsi la gestion budgétaire des ménages et en parallèle demander un effort limité à l'ensemble des propriétaires.
Évidemment, les promoteurs immobiliers sont beaucoup plus réticents. Écoutez Jean-Marc Taurelion, directeur général délégué de la FNAIM.
Le blocage de l'indexation des loyers qui concernerait 7 300 000 logements, ce n'est pas une bonne idée. D'abord parce qu'en réalité, cet index, il protège de l'inflation. Il ne varie pas dans les mêmes proportions que l'inflation et il fixe le loyer sur 12 mois. Il n'y a pas de volatilité. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que l'APL a été désindexée de l'inflation. Mais exceptionnellement, le gouvernement pourrait choisir de revaloriser l'APL, en tout cas pour les locataires les plus bas, qui ont les revenus les plus bas, afin de leur permettre d'amortir éventuellement cette hausse.
Débat arbitré par Fabien Cazot pour ces mesures pouvoir d'achat et tout le reste. La marge de manœuvre du nouveau gouvernement Borne nommé dans les heures à venir dépendra évidemment des législatives. L'élection des 577 députés. Simon Le Baron nous le disait tout à l'heure, les candidats ont jusqu'à ce soir 18h pour déposer leur dossier. Alors tableau général, on va mettre les nuances. Une gauche unie, une majorité présidentielle. À droite, c'est l'extrême droite, LR, Reconquête et le Rassemblement National, chacun de son côté. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Si la plupart des investitures, la validation d'un candidat par les grands partis, ces investitures sont actées, c'est la fin du suspense qui demeurait pour certaines personnalités.
À commencer par François Hollande, ouais. Oui, qui jette l'éponge. Ma candidature aurait eu du sens si le PS avait choisi de se refonder, nous confie l'ancien président. Au lieu de cela, elle se fond dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Pas de candidature non plus pour Thierry Solaire. Dans les Hauts-de-Seine, l'ex-LR, conseiller politique d'Emmanuel Macron, mis en examen pour 13 chefs d'accusation, dont fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales, renonce. Guillaume Pelletier, lui aussi, seul député sortant, étiqueté Reconquête, hésitait à se présenter dans la deuxième circonscription du Loir-et-Cher. Il jette l'éponge dans cette circonscription. Éric Zemmour est arrivé quatrième seulement à la présidentielle.
Alors, j'ai décrit le tableau général tout à l'heure. Antoine, il y a des nuances, il y a des dissidents dans les différents camps.
Au PS d'abord, 50 à 70 socialistes qui pourraient maintenir leur candidature en face des candidats investis par la NUP. Beaucoup de dissidents en Occitanie, en Dordogne, à Rouen, dans la Loire, dans le Rhône. Les statuts du parti prévoient leur exclusion. Au PC, Fabien Roussel, numéro 2 du parti, se retrouve dans le Nord face à une candidature alternative lui aussi. Et pour la majorité, eh bien c'est l'alliance de la République En Marche, du Modem et d'Horizon qui provoque des divisions avec une vingtaine de députés sortants qui n'ont pas été investis. Certains maintiennent leur candidature, s'y ajoute une multitude d'indépendants qui se présentent comme des proches de la majorité.
La campagne officielle démarre le 30 mai, premier tour des législatives le 12 juin. À Mariupol, à Syrie Azovstal, plus les heures passent, plus la reddition approche. Les derniers soldats ukrainiens retranchés ont reçu l'ordre de Kiev d'arrêter de défendre la ville. C'est ce que déclare un des commandants sur place dans un message vidéo aujourd'hui. Le Donbass à l'est est en train de se transformer en enfer en Ukraine. Enfer, c'est le mot utilisé par le président Zelensky, alors que l'armée russe pilonne la ville de Severodonetsk. Selon l'Ukraine, le bombardement d'immeubles d'habitation a provoqué la mort de 12 personnes au moins ces dernières heures. Mais au bout de presque 3 mois de conflit, même si la Russie affiche des gains, ces gains sont infiniment moins importants qu'imaginés au départ, et les pertes russes bien supérieures. Elles représentent un tiers des forces engagées fin février, selon les renseignements britanniques. On se souvient aussi de la perte du navire amiral en mer Noire, le Moskva. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour.
Spécialiste des questions de défense à France Inter, les mêmes renseignements britanniques, Eric, affirment que, mécontent, Vladimir Poutine a renvoyé plusieurs généraux.
Oui, c'est dans son poste quotidien quotidien d'hier, hein, sur Twitter, que le renseignement militaire britannique confirmait la mise à pied de deux officiers généraux russes, dont le patron de la flotte de la mer Noire, l'amiral Igor Osipov. Autre officier démis, le général de corps d'armée Sergueï Kissel. Il était en charge de la première armée mécanisée et paie, semble-t-il, l'échec cuisant de ses troupes à prendre ou même à encercler Kharkiv, la seconde ville d'Ukraine. Il y a aussi quelques incertitudes concernant le chef d'état-major des armées russes, hein, le général Valéry Gerasimov. La note des renseignements britanniques estime qu'il est probablement toujours à la manœuvre, mais s'interroge sur le degré de confiance que lui accorde désormais Vladimir Poutine. Ce lundi, d'autres sources britanniques, militaires cette fois, estimaient que le maître du Kremlin était lui-même impliqué dans la tactique militaire en Ukraine, s'arrogeant les prises de décision et ordonnant les mouvements d'unités aussi élémentaires qu'une brigade ou même un régiment. Ce qui pourrait expliquer les erreurs tactiques catastrophiques pour les troupes russes, lesquelles ont par exemple été décimées en tentant de passer la rivière Seversky-Donetsk ces deux dernières semaines. Un régiment en entier, 70 blindés et probablement des centaines de soldats y ont été anéantis.
Pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, c'est confirmé, le Parlement américain débloque 40 milliards de dollars, somme colossale. C'est aussi un investissement pour leur propre sécurité, estime le président Zelensky. La protection de l'Ukraine, dit-il, c'est la protection contre de nouvelles guerres que la Russie peut provoquer. Russie qui répond à la demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN en coupant le gaz, c'est en tout cas ce qu'affirme la compagnie d'énergie finlandaise. Et puis à propos de l'Ukraine, un constat, près de 3 mois après le déclenchement du conflit, et même en ce temps de grosse actualité politique, eh bien, la guerre occupe encore beaucoup de temps d'antenne sur les chaînes d'information continue, et les audiences sont au rendez-vous, Alexandra Akoun.
L'Ukraine a toutes les sauces depuis près de 3 mois. Alors c'est vrai, les audiences suivent, elles sont même exceptionnelles. De quoi pousser les chaînes à trop en faire, même lorsque l'actualité ne l'impose pas vraiment. Dans une course effrénée à l'audimat, ça n'est pas l'analyse qu'en fait Céline Pigalle. Elle est la directrice de la rédaction de BFM TV.
Au contraire, je pense qu'il y a une curiosité de ce sujet parce que chacun mesure que ce qui se joue en Ukraine est très important, non seulement pour la France, non seulement pour l'Europe, mais pour l'organisation du monde finalement. Et donc c'est tout à fait logique que, y compris quand le conflit semble moins dans un moment très chaud, très dur, il y ait encore une curiosité immense.
Une curiosité alimentée aussi par la crainte que suscitent les répercussions de cette guerre sur la vie des Français, complète le directeur général délégué de LCI, Fabien Amias, même si le positionnement de sa chaîne n'est pas tout à fait le même.
L'avantage d'une chaîne comme LCI, dans l'univers information du groupe TF1, c'est de pouvoir davantage se spécialiser. On n'a pas vocation à se transformer en chaîne de conflit, mais on juge avec Thierry Tulier, le patron de l'info, que c'est sans doute ce qui s'est passé de plus important depuis des années et que notre rôle est de se concentrer là-dessus. Il y a des conséquences sur la vie des gens et il y a des conséquences économiques potentiellement dramatiques et qui créent donc un intérêt sans précédent, peut-être le plus fort qu'il y a jamais eu sur les chaînes d'information depuis qu'elles existent en France.
Et qui pourrait bien, comme ce conflit, s'installer dans la durée.
Et je vous parlais de la réplique russe à l'adhésion probable de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Autre information ce matin, la Russie dit vouloir créer 12 nouvelles bases militaires dans l'ouest du pays, tout près de la Finlande donc. Et puis autre information, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, proche de la Russie, vous le savez, annonce qu'il quitte le conseil d'administration de Rosneft. L'Ukraine, on en parle différemment à partir de 13h30 avec nos deux invités. Elles ont écrit un dictionnaire amoureux de l'Ukraine. La culture, l'histoire du pays, vous pouvez poser toutes vos questions au 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Contrairement à ce qu'a longtemps affirmé Doctolib, nos données personnelles sur la plateforme aux 50 millions d'utilisateurs en France ne sont pas toutes chiffrées de bout en bout et donc ne restent pas obligatoirement confidentielles. C'est ce qu'établit une enquête du service investigation de Radio France. Alors ce n'est pas forcément un drame, mais il y a un risque de fuite. Bonjour Géraldine Allot.
Bonjour.
C'est vous Géraldine qui avez mené cette enquête. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du constat, cela pose une question de société. En balance, au fond, il y a l'efficacité du service Doctolib pour nous et la protection de la vie privée.
Oui, alors d'abord, il faut savoir que l'essentiel de nos données de santé sur Doctolib sont chiffrées de bout en bout. Ordonnances, compte-rendu d'analyse envoyé par votre médecin, téléconsultations, tout cela reste strictement confidentiel. Personne n'y a accès, sauf évidemment vous et votre médecin. En revanche, les données sur nos rendez-vous ne sont pas chiffrées de bout en bout. Cela veut dire que Doctolib sait quel médecin vous voyez, quel jour, quelle heure et pour quel motif. Et ce sont des éléments qui disent quelque chose sur notre état de santé. Alors la plateforme nous a répondu que seul un nombre très restreint de ses salariés avait accès à ces données et que cet accès est indispensable pour qu'elle puisse envoyer des SMS ou des emails de rappel. Cela pose donc effectivement une question essentielle, simplicité d'une application versus vie privée. Juliette Alibert est avocate au barreau de Paris, spécialiste des données de santé.
ça ouvre, à mon sens, un débat très intéressant entre, d'un côté, un niveau d'ergonomie, de praticabilité très large, très grand, et en même temps, de l'autre côté, dans cette balance, le niveau de chiffrement, donc le niveau de préservation de la donnée qu'on souhaite. Et effectivement, quand on est en matière de données de santé, eh bien, dans cette balance-là, il faut peser le pour ou le contre pour savoir si on préfère le niveau de chiffrement le plus fort ou au contraire, un outil très ergonomique.
Et d'ailleurs, il faut le préciser, l'immense majorité des entreprises numériques dans le domaine de la santé ne chiffrent pas l'ensemble des données de leurs utilisateurs de bout en bout et optent pour la simplicité d'utilisation.
Et on retrouve l'intégralité de votre enquête, Géraldine, sur franceinter.fr. Un premier cas de variole du singe est confirmé en France, en Île-de-France. Précisément, un homme de 29 ans et n'a pas voyagé dans un pays où circule le virus. Son cas n'est pas grave, il est isolé à son domicile. Cette maladie est généralement bénigne. Parmi les changements ouverts par le Covid et que l'inflation aujourd'hui accentue, les achats sur Internet, ils continuent de progresser en volume, près de 12% de hausse sur un an, le panier moyen est de 62 euros, et c'est dans l'alimentaire que l'accélération est la plus spectaculaire, Agnès Soubiran.
Le e-commerce a d'abord été réservé aux achats de vêtements, de livres et de matériel électronique. Aujourd'hui, l'alimentaire représente plus de 11% des commandes, car deux freins ont sauté durant la crise sanitaire. Sarah Duchazo-Bénex, du cabinet Nielsen et IQ, spécialiste du comportement des consommateurs.
Les seniors, on disait beaucoup qu'ils n'allaient pas passer le cap en fait, de faire des commandes sur Internet. On sait qu'ils sont venus sur le circuit et ils y sont restés. Il y avait un problème aussi de fraîcheur et de choix, assez simplement. Il faut convaincre que la fraîcheur va être là au moment de la commande. Donc là, on a passé aussi un cap là-dessus.
Et aujourd'hui, 6 internautes sur 10 achètent des produits alimentaires, car à la crise sanitaire a succédé la crise du pouvoir d'achat. Et pour Marc L'Olivier, délégué général de la Fédération du commerce en ligne, les consommateurs y ont trouvé de nombreux avantages.
D'abord, le fait qu'ils peuvent mieux maîtriser le budget. Vous pouvez retirer un produit du panier ou le remettre plus facilement. Donc vous avez une vision sur vos achats. La deuxième, c'est que ça vous évite le déplacement en voiture, problème de carburant, prix du carburant. Puis le troisième, ils aiment bien rechercher des codes promo et Internet, par rapport à ça, a vraiment des atouts.
Dans ce contexte, la livraison des courses à domicile progresse de 10% par rapport au drive, avec, dans les grandes villes, l'effet quick commerce, ces livraisons ultra rapides en moins de 15 minutes, particulièrement à l'heure de l'apéritif.
Là, c'est un rattrapage après deux années marquées par les confinements. Il devrait y avoir cette année beaucoup de cérémonies de mariage. Les professionnels croulent sous les demandes. Par exemple, au domaine du Saule, à Louvigny, près de Caen. Reportage Philippe Thomas, France Bleu Normandie.
C'est un vaste domaine de plus de 3 hectares situé aux portes de Caen, repris en septembre dernier par les époux Le Thiel qui l'ont transformé pour accueillir des réceptions. Bonne pioche quand on regarde le calendrier des réservations 2022 d'Aurine Le Thiel.
On est complet, que ce soit le week-end ou la semaine, parce qu'aujourd'hui on propose même des mariages en semaine. On est complet jusqu'à fin octobre. Et effectivement, on est étonné d'avoir énormément de demandes. On aurait plusieurs salles. On louerait plusieurs fois les lieux le même jour. 2023, on commence sur les mois d'été à être complet. Donc on va avoir encore quelques dates, avril, mai, septembre, octobre. Mais sinon, les mois d'été sont déjà complets.
Et des appels même pour caler des événements en 2024, des mariages reportés ou tout simplement des mariés qui expriment au téléphone l'envie de faire la fête.
C'est même pas une envie, c'est aussi un besoin. Donc ils ont besoin de se retrouver en famille. Je pense que c'est ça aussi qui a déclenché les demandes en mariage, des envies de se retrouver, de fêter des événements, peu importe la raison, ils ont besoin de se retrouver.
Et ça se traduit en France par une hausse du nombre de mariages, estimée à 20% de plus comparé aux dernières années d'avant Covid.
Nous en venons à présent à notre rendez-vous du vendredi avec le procès des attentats du 13 novembre. Arrêt sur audience, nous sommes à un mois du verdict. Et lundi commencent les plaidoiries cette semaine et ce vendredi marque donc la fin de ce qu'on appelle les débats. En l'occurrence, ces derniers jours, de nouvelles auditions de victimes que l'on n'avait pas entendues lors des audiences consacrées à ce sujet à l'automne. Bonjour Charlotte Piré.
Bonjour.
Charlotte, en direct du Palais de Justice de l'Île de la Cité à Paris. De ce point de vue, le moment fort de la semaine, ça a été le témoignage, Charlotte, du chanteur et du guitariste du groupe Eagles of Death Metal qui était sur la scène du Bataclan le soir de l'attentat.
Oui, parce qu'ils étaient sur la scène, ils ont été parmi les tout premiers à voir les terroristes arriver face à eux au fond de la salle. Ils sont venus raconter cela à la barre, très émus tous les deux. Ils sont venus aussi dire leur amour de la France, de leur public français, le choix d'avoir continué cette tournée en novembre 2015, peu de temps après les attentats, tournée en Europe malgré tout, malgré leur traumatisme à eux, malgré leurs difficultés pour se reconstruire. Ils ont eu quelques mots aussi pour les accusés. Jesse Hughes, le chanteur très croyant, a dit sa volonté de pardonner. Et puis il a eu cette phrase en conclusion, « You can't kill rock and roll ».
D'autres témoignages ont été entendus, Charlotte, au fil de la semaine. Depuis l'automne, les accusés ont pris la parole à plusieurs reprises. Donc, les victimes qui s'expriment en ce mois de mai les ont écoutées et leur répondent ou s'adressent à eux.
Oui, parce que la différence avec les témoignages auxquels vous faisiez référence qui ont eu lieu en octobre, c'est que depuis, le procès s'est déroulé. Les accusés se sont exprimés sur les faits qui leur sont reprochés et de très nombreuses victimes disent les avoir écoutés attentivement, leur ont demandé pour certains d'assumer, ont pour d'autres répondu directement à Salah Abdeslam qui a quelque peu demandé si un pardon était possible. Certains, beaucoup, ont dit que pour eux, il n'y avait certes ni haine mais ni pardon possible. Il y a eu cette survivante du Bataclan qui reconnaît avoir été émue par certains accusés. Certains m'ont même fait rire, a-t-elle confié. Il y a eu cette mère endeuillée qui espère que par ce procès, a-t-elle dit, une graine aura été plantée dans le cœur des accusés. Et puis il y a eu les paroles de ce très jeune enfant, un texte lu par son avocate à la barre. Sa mère était enceinte de lui lors de ce 13 novembre 2015. Il a écrit ainsi, ils sont pourris comme une banane pourrie, ils ont tué mon papa et ça c'est vraiment pas bien.
Et la semaine a aussi été marquée par la mort d'une personnalité importante, Françoise Rudetsky, l'ancienne présidente d'SOS Attentat, association de défense des victimes d'attentats. Elle avait elle-même été blessée en 1983 et forcément sa disparition a ému au palais de justice.
Oui, elle avait 73 ans et quelques mots, peu de temps après qu'on ait appris sa mort, ont été dits à l'audience par un des avocats de partie civile, Frédéric Bibal, qui a rappelé combien elle avait accompagné de très nombreuses victimes au cours de ce procès et puis au cours de très nombreux autres procès terroristes. C'est elle qui est à l'origine directe, a-t-il rappelé, et personnelle du statut des victimes d'attentats. Elle a fait évoluer la loi en leur faveur. C'est une très lourde perte, a-t-il rappelé. Et puis on l'avait vu, Françoise Rudetsky, il y a quelques semaines encore ici à l'audience parce qu'elle est venue assez régulièrement dans son fauteuil roulant, assister au débat et aussi accompagner de très nombreuses victimes de ce procès.
Charlotte Piré en direct du Palais de Justice de l'Élysée de la Cité à Paris avec Frédéric Kérou. La version vidéo de cette chronique sera à retrouver sur les réseaux sociaux de France Inter ce week-end. Lui s'apprête à disputer le dernier Roland-Garros de sa carrière. Joe Wilfried Tsonga était ce matin l'invité de nos confrères de France Info. Moment spécial forcément que de s'apprêter à boucler une carrière de 18 ans.
C'est le temps de raccrocher la raquette et de dire au revoir à ce tennis de haut niveau qui m'attend à partir. Je suis pas le seul à vivre ces moments-là. À chaque fois, j'ai su me remobiliser, repartir à l'entraînement. Tout ça, je l'ai fait parce que j'étais passionné. J'ai adoré tout ce que j'ai fait. J'ai adoré chaque moment. Et là, j'arrive au terme. Il me reste un tournoi et je vais essayer d'en profiter au maximum.
Et il jouera au premier tour de Tsonga face au Norvégien Casper Ruud, qui est le 8e joueur mondial. La météo dans un instant.
L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.
Bouygues Télécom.
David déménage à Dijon et désire doter son domicile de la fibre sans trop dépenser. Eh bien David, ce qui suit va vous plaire.
En ce moment, chez Bouygues Télécom, la fibre est à seulement 15,99€ par mois pendant un an, puis 30,99€ par mois avec Bbox Fit. Eh oui, la fibre à 15,99€. Profitez-en maintenant, les deux premiers mois sont remboursés. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois, conditions sur bouyguestelecom.fr.
France Inter M.
Alice, tout était parti d'un mauvais pied. Gauche. Puisque c'est celui sur lequel tu te lèves depuis ta naissance. Ah, je devrais écrire plutôt depuis ma naissance.
Frères et sœurs, le nouveau film d'Arnaud Desplechin, en sélection officielle au Festival de Cannes, avec Melville Poupeau et Marion Cotillard.
Plus sa notoriété grandissait, plus j'étais déchirée.
Je pardonnerai jamais à Louis.
Alice déteste son frère depuis 20 ans. Ils ne se sont pas revus depuis. Ils vont se croiser au décès de leurs parents. Frères et sœurs, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Voyons le temps de ce jour.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Attention aux orages cet après-midi. 17 départements du Nord en vigilance orange.
Oui, entre le bassin parisien, le nord de la Seine, le Grand Est, des averses et des orages circulent. Alors une vigilance est en cours de l'Île-de-France et de la Haute-Normandie vers le Nord et les Ardennes. Les orages peuvent être violents avec de fortes rafales de vent, des pluies temporairement intenses et de la grêle. Ce temps se décale progressivement vers l'Est au fil de l'après-midi et des éclaircies en profitent pour revenir par le Nord-Ouest. En allant vers le Sud, c'est du soleil, parfois voilé. Le vent de Sud à Sud-Est persiste. Et puis il fait très chaud dans le sud, dans l'est, 28 à 34 degrés attendus cet après-midi. C'est plus respirable de l'océan jusqu'au nord de la Seine avec 21 à 28 degrés, un peu moins près de la Manche, 17 à 21. Ce week-end, il va faire chaud, souvent 23 à 28 degrés au nord pour samedi. Sur le sud, on atteindra 30 à 35 degrés, peut-être 1 ou 2 degrés de plus pour la journée de dimanche. Et enfin, en soirée de dimanche, on aura une dégradation orageuse qui gagnera le sud-ouest, qui remontera vers le nord. Et la semaine prochaine commencera dans une ambiance bien rafraîchie.
Elodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
L'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural, disait le général de Gaulle. Alors prenez une carte, eh bien, Kiev en est le centre. Après près de 3 mois de guerre, nous avions envie aujourd'hui de parler de l'Ukraine autrement. Et paraît aux éditions Plomb un dictionnaire amoureux de l'Ukraine. Le projet était dans les esprits depuis quelques années, il tombe à point nommé. Une partie des recettes ira à l'aide médicale et caritative France-Ukraine et à l'Académie nationale de musique de Kiev. Car ce dictionnaire, c'est un morceau à quatre mains et l'une des deux auteurs est musicienne, violoniste, mais aussi diplomate, ancienne attachée culturelle de l'ambassade d'Ukraine à Paris, Tetiana Androuchouk. Danielle Georget, rédactrice en chef adjointe à Paris Match, co-signe cet ouvrage. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir, pour vos questions sur ce pays au cœur de la carte européenne et mondiale en ce moment. Et un grand bonjour à nos deux invités.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. Alors, pour parler de l'Ukraine et parler d'autre chose que des bombes, quoi de mieux que la musique, le piano, et quel piano ? Petit extrait du concerto numéro 3 de Rachmaninov, interprété par l'un des plus grands pianistes du XXe siècle, Vladimir Horowitz. Enfance à Kiev, dans une rue, ça ne s'invente pas, qui s'appelait la rue musicale. Danielle Georget, j'ai choisi Horowitz pour commencer, parce qu'on va parler de musique, évidemment, mais aussi parce que c'est un concentré de tout ce que l'Ukraine peut raconter. L'exil, l'apprentissage avec un professeur russe, le côté juif, et la communauté juive est importante en Ukraine, il y a tout dans la vie d'Horowitz.
Oui, il y a la guerre civile qui va le chasser de Kiev, avec ce basculement d'une vie privilégiée, heureuse, oui, d'une famille où on peut faire de la musique de chambre entre soi puisque tout le monde joue d'un instrument particulier. Et puis tout d'un coup, c'est un changement d'univers. Le piano qui passe par la fenêtre, parce que le piano, c'est l'indice de l'appartenance à la classe bourgeoise. Oui. Et Horowitz qui doit arrêter ses études. Il voulait les continuer, mais il va falloir que tout de suite, il gagne sa vie. Il va devenir très vite une petite star, la star de la Russie rouge, oui, mais il va choisir de partir pour l'Europe, pour l'Occident.
L'Europe, puis les États-Unis, il fera un dernier concert à Moscou dans les dernières années de sa vie. Tetiana Androuchouk, la place de la musique dans la culture ukrainienne, elle est fondamentale.
Elle est fondamentale, ouais. Vous avez bien choisi. Vous trouverez très peu de pays au monde qui gardent jusqu'à maintenant 200 000 des chansons folkloriques, dont Bartok, dont tous les musiciens étaient folles de découvrir, raconter et de dire. C'est ça notre richesse et notre grande richesse pour tout. Pourquoi? Parce que cette chanson on conservait notre langue. C'est Gogol qui a dit...
Gogol, le grand écrivain.
Gogol, Mykola Gogol.
Ukrainien.
Ukrainienne, qui a disait que les chansons pour l'Ukraine, c'est tout. C'est l'histoire. C'est l'histoire vivante. C'est l'histoire qui nous apprend patriotisme, qui nous apprend tout. Absolument.
Et qui vous apprend notamment que les liens avec la Russie sont étroits, parce que vous, par exemple, à Kiev, vous avez eu un professeur russe.
Tout à fait. Mais qui a formé à Kiev
toute une génération des violonistes ukrainiens. Donc, pour dire, il est russe ou bien il est devenu déjà ukrainien. Vous comprenez, à certains pays, il faut pas réduire notre culture à la coordination avec la Russie. Pourquoi? Puisqu'il avait dans, c'était longue notre vie
votre
avec
histoire.
La Russie, 300, ouais. 400, ouais. Et il y avait étape à 17e siècle quand toute la civilisation, toute la culture en Russie venue de l'Ukraine. Tout, à partir des religions, etc. Et les philosophes, littérature.
Évidemment. Je voulais rester sur la musique et on va venir sur l'histoire. Daniel Georget, l'un des premiers articles de ce dictionnaire amoureux, c'est le mot « âme ». L'âme, c'est la partie du violon qui permet à l'instrument de résonner. Et au fond, j'ai l'impression que vous avez écrit, alors évidemment, Tétiana connaît ça par cœur, mais vous, pour comprendre cette âme ukrainienne.
Eh bien, moi, je l'ai comprise grâce, enfin, je l'ai comprise. Qui peut avoir la prétention de comprendre une âme? Moi, j'ai été d'abord, Tatiana était le professeur de violon de ma fille, et j'ai découvert une façon, une relation de professeur à élève qui est absolument merveilleuse. La façon d'enseigner la musique de Tatiana, où c'était les parents qui se faisaient engueuler quand l'élève avait mal travaillé, parce que tout ce qui était mal était reposé sur nous et tout ce qui était bien toujours reposait sur les élèves. Donc c'était assez injuste, mais c'était très efficace parce que les enfants l'adoraient. Oui. Les enfants l'adorent et on les voyait quand j'ai vu des enfants qui attendaient pratiquement au garde-à-vous devant sa porte parce qu'elle avait 5 minutes de retard et qui bronchaient pas. C'était.
Et vous dites entre occidentaux et slaves, nos façons d'appréhender le monde sont différentes. Nous avons à l'esprit des jardins à la française. Nos amis slaves avancent dans une jungle qu'ils n'ont jamais prétendu domestiquer.
C'est ça. Donc il faut un peu, quand on travaille avec eux, il faut apprendre à débroussailler avec une serpe. Parce que nous, on a besoin de logique. Et eux, en fait, ils accumulent. D'ailleurs, ça se voit même dans leur décor. C'est une accumulation de livres, d'images, de souvenirs. Enfin, tout ça est très foutraque, on dira. Alors que nous, il faut qu'il y ait un ordre, il faut qu'il y ait une méthode. Et c'est pour ça que nous sommes très complémentaires, je crois.
Et on trouve, alors évidemment, dans le contexte actuel, des mots sur le patriotisme qu'on n'entend plus aujourd'hui, par exemple en France. Petit extrait de ce dictionnaire, Tétiana, nous sommes le passé, le présent, les vivants et les morts, l'histoire, la géographie, la poésie, la passion, la raison ne guide pas toujours les hommes. Cette passion, ce patriotisme, c'est ce qui explique la résistance ukrainienne depuis 3 mois.
C'est une très bonne question. Et j'ai trouvé la réponse. Tous les débuts de mes pensées quand je voudrais écrire ce livre.
Oui.
Et j'ai tombé sur qui? Sur Talleyrand.
Talleyrand.
Qui disait, oui, faute de richesse.
L'homme politique et diplomate au 19e siècle.
Tout à fait.
Oui.
Il disait, faute de richesse, une nation n'est plus que pauvre. Faute de patriotisme, c'est une pauvre nation. Et voilà. Vous, les Français, vous le voyez maintenant que nous ne sommes pauvres. Nous sommes très riches pour donner toute notre âme, tout notre courage pour vous surprendre que nous voulons tenir à l'Ukraine. Nous voulons État démocratique, anticorruptionnaire, avec votre aide.
Françoise au standard pour poursuivre la conversation. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour.
Je vois sur la petite fiche que vous nous appelez du Maroc.
Oui, absolument.
Nous vous écoutons.
J'ai vécu 5 ans en Ukraine jusqu'en 2020. Et puis maintenant, je suis au Maroc. Mais alors, un dictionnaire amoureux d'Ukraine, ben, c'est merveilleux parce que je suis amoureuse de l'Ukraine. Et moi-même et ma famille en sommes tombés amoureux. Mais et j'apprécie évidemment la publication de ce livre. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'en suis amoureuse non pas uniquement pour ces magnifiques tradition culturelle, son histoire ancestrale qui est en fait un pays de complète légitimité, mais aussi pour sa modernité. C'est un magnifique pays moderne.
C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ?
Des geeks dans tous les coins, des start-up dans tous les coins. Il y a au moins 2 licornes en Ukraine. ce sont des gens extrêmement créatifs et pas seulement sur le plan artistique et culturel que je réitère, j'apprécie oui. et j'ai apprécié magnifiquement.
Mais il y a aussi de la modernité.
Moderne avec des gens qui bossent, qui sont capables de créer dans le monde moderne, qui font fondamentalement partie de l'Europe, ça, disons-le.
Merci Françoise pour ce témoignage. Daniel Georget, je voulais qu'on parle de la langue ukrainienne aussi, parce qu'au fond, il y a une bataille pour qu'elle existe quasiment depuis sa naissance. Le tsar Nicolas II, au début du XXe siècle, disait « il n'y a pas de langue ukrainienne, il y a seulement des paysans illettrés qui parlent petit russe ». C'est un combat la langue, évidemment.
Oui, c'est un combat. D'ailleurs, on s'est arrangé pour que les paysans restent illettrés, puisque dans toute la Russie, en Ukraine comme ailleurs, il n'y avait pas d'école. Enfin, nous, notre école républicaine, je crois que c'est un des apports des bolcheviks, ça. L'école, il a fallu attendre la révolution pour avoir l'école obligatoire. Donc, cette langue, elle a été interdite. Le grand poète ukrainien Shevchenko a fait, 15 ans, 20 ans de forteresse. Il est né en serre, puisque ce sont les Russes qui ont introduit le servage en Ukraine. Il a d'abord été peintre, comme la grande famille ukrainienne ou polonaise pour laquelle il était serf, l'a envoyé faire des études d'art. Ce sont ses professeurs et ses collègues qui l'ont racheté. Et à la suite de quoi, il a pu faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire écrire en ukrainien, et ça lui a valu toute une vie de prison.
Tetena Androuchouk, quel regard portez-vous sur le jeune président Zelensky ?
Vous savez, d'abord, je n'ai pas voté pour lui. Bien que je suis artiste, et d'un côté, il a dû tout cela. Pourquoi ? Parce que ça m'a énervé que depuis plusieurs années que notre président a insisté de former l'armée ukrainienne, de la donner les armes, de montrer l'esprit de l'indépendance. Tout de suite, Zelensky a dit quelque chose d'autre. Au lieu des armées qu'ils font construire, parce que nous sommes, après 2014, nous sommes toujours en guerre. C'est pour plusieurs qui s'est ouvert les yeux que nous avons la guerre depuis 90 jours, presque. Et pour nous, ça c'est 2014, et même avant, 400 ans.
Et aujourd'hui, son comportement aujourd'hui ?
C'est idéal. C'est une découverte. C'est une... je dois vous dire que la caste des artistes dans laquelle j'appartiens
oui.
un tout petit peu...
Vous, la violoniste
Elle va vous étonner toujours. Vous ne connaissez jamais les toutous, les dessins.
Ce qui est drôle, Daniel Georget, c'est que vous faites un parallèle avec Chaplin, alors que lui-même, Zelensky, a fait à l'ouverture du Festival de Cannes un parallèle avec le dictateur, mais pour parler de Poutine.
Mais il a en même temps cité le discours que Chaplin, dans son costume à la fin du dictateur, le chapelier dans son costume d'Hitler, fait quand il s'adresse aux soldats. Et c'est exactement le discours que moi j'avais reproduit dans le livre.
Et quel regard vous portez sur ce président Zelensky, vous qui vous êtes intéressé d'encore plus près que nous à la culture ukrainienne et à l'histoire ?
Moi, j'ai été impressionnée par le fait que pendant des jours, tous les matins, en se réveillant, j'imagine que des millions de gens dans le monde qui connaissaient pas l'Ukraine se sont réveillés en se disant « Est-ce que Zelensky est encore vivant ?» Et parce que c'est lui qui tout d'un coup a personnifié un pays et un esprit de résistance. Et ça, c'est vraiment très impressionnant.
Tetena Androuchouk, un dernier mot avant de se quitter. Alors, vous avez été attachée culturelle à l'ambassade d'Ukraine. Vous êtes arrivée au moment de l'indépendance, la chute du mur de Berlin, de l'Union soviétique, au fond avec l'obsession de ressusciter l'histoire ukrainienne qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, vous vivez où ? Entre Paris et l'Ukraine, uniquement en France ? Et est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec votre pays ?
Mais bien sûr, chaque jour, je commence par téléphoner à l'Ukraine, où se trouvent maintenant, malgré l'exil, beaucoup, beaucoup de les Ukrainiennes, qui sont très attentif à ce qu'il dit la France. Par exemple, je commence à envoyer le plus la presse qui me oui. semble très importante ouais. française. Merci à la France. Merci à la France. C'est une réponse pas seulement de moi, mais je pense qu'il vient du cœur de tous les Ukrainiens.
Merci jusqu'au bout ou pas, parce qu'on voit les réticences pour intégrer l'Ukraine rapidement à l'Union européenne. Vous le dites toutes les deux dans ce livre, l'Ukraine est profondément européenne, mais pour l'Union européenne, il va falloir attendre. Est-ce que ça, vous le comprenez? Ça veut dire non, ça, je crois.
Moi, je dis non.
Bon.
Parce que nous avons donné beaucoup de force, beaucoup de sang pour que ça existe.
Oui.
Et nous avons vous persuadé de notre valeur européenne. Comment vous pouvez les prendre? Si vous ne prenez pas, donc on commence à dire qu'est-ce que c'est cette Ukraine, qu'est-ce que c'est cette Europe.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans les studios de France Inter, les jardins à la française et la jungle à la slave. On a bien vu ça dans vos façons de vous exprimer toutes les deux. Daniel Georget, Tatiana Androuchouk, Dictionnaire amoureux de l'Ukraine, c'est chez Plomb, 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre dans 5 minutes, dernier épisode de notre feuilleton dans les jardins partagés de Lille. Et dans le vif de l'histoire, Jean Lebrun?
L'âme, vous savez ce que c'est l'âme?
Oui.
L'âme des jardins familiaux, c'était l'abbé Lemire.
Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Ça n'est pas une violoniste, c'est une joueuse de bande de néon qui est à votre micro aujourd'hui. Louise Jalut, elle sera en concert dimanche à la Philharmonie à Paris.
Ce sera à 16h30, un concert en hommage à Astor Piazzolla, mort il y a 30 ans. Piazzolla, maître du tango et des bandoneoniste, mais c'est un autre artiste qu'elle a choisi d'évoquer. Il n'est pas argentin, mais belge, celui-là. Louise Jalut m'a parlé de Brel.
Je crois que mon premier souvenir de Jacques Brel, c'était quand j'étais adolescente. On écoutait des vinyles à la maison, parce que mes parents sont de grands mélomanes. Et j'ai le souvenir de cette pochette bleue, ce fameux disque bleu, comme on l'appelle, avec les nuages et ce ciel éclatant. C'est le dernier disque de Jacques Brel. Et si cet album m'a marqué, je pense que c'est aussi parce qu'il s'ouvre avec l'accordéon de Marcel Azola. Et ça m'a tout de suite emporté.
Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands parents, entre l'absinthe et les grands messes, ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
On peut. Et cette chanson a pour titre Jaurès, Frédéric. C'est donc le premier titre du dernier album de Brel.
Les Marquises,
oui.
Sorti en 1977, soit près de 20 ans avant la naissance de Louise Jalut. Mais pour elle, cette chanson, réquisitoire contre la guerre et dénonciation de l'exploitation des hommes, cette chanson, magnifique et sobre, n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui.
J'ai choisi aussi cette chanson parce qu'elle évoque une grande figure historique, Jean Jaurès, et je crois que, avec l'actualité qui nous préoccupe, c'est une figure importante, pacifiste. Et puis, à la fin de cette chanson, il interpelle la jeunesse. C'est aussi peut-être ça qui m'a marquée quand j'étais petite. La fin de la chanson fait « Demandez-vous, belle jeunesse, pourquoi ont-ils tué Jaurès ?» Voilà, ça c'est assez émouvant.
C'est une chanson que vous continuez à écouter ?
Toujours. Toujours, vraiment. Je crois qu'elle m'accompagne. Et alors, ce qui me touche particulièrement dans cette chanson, c'est qu'elle est en mode majeur. C'est un mode, en fait, qu'on utilise beaucoup pour des airs plutôt joyeux habituellement en musique, alors que là, elle est profondément triste. Et c'est ce qu'on peut aussi voir chez Schubert. Et je crois que c'est une tristesse qui marque d'autant plus qu'elle est en mode majeur. Et voilà, c'est celle qu'on savoure vraiment.
Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mourraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître.
J'ai aussi appris qu'à l'origine, Jacques Brel avait souhaité un bandoneon. Et je me suis mise à imaginer, évidemment, le son du bandoneon derrière sa voix. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu quand j'étais plus jeune.
Est-ce que c'est une chanson que vous avez jouée vous-même au bandoneon ?
Je l'ai, bien sûr, tâtonnée sur mon instrument. Et j'espère un jour, peut-être, la reprendre. Mais ce qui la rend belle, c'est aussi cette magie entre Marcel Azola et Jacques Brel. Et ça, c'est absolument unique.
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Jacques Brel, Jaurès, c'était donc, Frédéric, le choix de la bandoneoniste Louise Jalut.
Qui sera en concert ce dimanche à la Philharmonie de Paris. Et elle sera aussi en concert le 4 août au festival Jazz in Marciac.
Bon week-end, Frédéric. Dernier épisode de notre feuilleton sur les jardins familiaux de Lille. Dernier épisode, dernier personnage qui cultive l'une des 73 parcelles confiées aux habitants. Il est au micro de Cécile Bidot.
Bonjour, je peux me permettre d'entrer ? Vous avez laissé votre vélo garé à l'entrée. Et vous êtes ?
Patrick.
Vous êtes Patrick. Alors vous êtes connu ici ?
Connu, bon, ça fait que 7-8 ans hein, que j'y suis depuis ma retraite.
Vous faisiez quoi ?
J'étais agriculteur déjà avant, mais dans la Somme. Donc j'ai toujours la main à la terre. Là, vous voyez que ça commence à lever. Il y a déjà des navets, des radis.
Donc là, on aperçoit les petites feuilles vertes, voilà. Mais c'est recouvert d'un voile.
C'est pour garder l'humidité, ça protège du froid. Avec le voisin d'à côté, on a supprimé la clôture. Et donc on peut aller aussi bien dans son jardin que dans le mien. Je peux prêter mes outils, on discute. Comme là, bah, on a planté un arbre avec la dame tout à l'heure. Il y a de l'entraide. Là, c'est un abricotier. J'ai des groseilliers, du cassissier, tout le long. Là, c'est le domaine un peu de ma femme. Elle a arrangé un peu. Là, j'ai
il y a un petit salon de jardin avec une nappe bleue.
Voilà, et puis la vigne, elle va couvrir. Donc le soleil va taper un peu moins fort. Quand j'étais agriculteur, j'étais dans le système raisonné, donc j'utilisais des produits de traitement et des engrais. Mais là, ici, dans mon jardin, plus de traitement, plus d'engrais, que du bio.
C'est important pour vous, ça ?
Très important, surtout pour ma santé. Et j'ai une bonne santé, plein d'énergie.
Vous avez quel âge, Patrick ?
69.
69 ans et du jardinage jusqu'à ?
Jusqu'à 100 ans. C'est pour ça que j'ai fait ce bac à légumes en hauteur, pour être à la hauteur pour travailler après. Et puis après, les enfants, les petits-enfants.
Les petits-enfants viennent au jardin ?
Ils viennent, vous voyez, tous mes haricots que j'ai plantés, ils ont planté à chaque fois 4 ou 5 graines dans le sillon que j'avais fait. Et donc, ils étaient à deux, ils ont tout planté. Ils avaient 6 et 5 ans. Donc, si vous voulez, quand on les apprend petits, l'école devrait initier les enfants à la nature, parce que pour savoir manger un peu les bonnes choses, parce que des haricots, ben là, ils penseront, ben tiens, on va goûter les haricots de papy.
C'est la transmission, en fait.
La transmission, tout à fait. C'est une passion d'aimer la terre-mère.
Donc là, vous rentrez chez vous, Patrick ?
Voilà, ouais.
Vous habitez pas loin ?
Pas très loin, non. Près de la mairie de Vieux-Lille.
Vous mettez un gros cadenas quand même.
Oui, j'en mets même deux, vous voyez, parce que...
Pour éviter qu'il n'y ait des vols.
Disons que c'est quand même du temps qu'on passe, mais j'ai une Sainte Vierge dans mon local.
Vous avez quoi dans votre local ?
Une Vierge en statue. Et donc, ça a déjà été visité. Eh bien, à chaque fois qu'il voit la Vierge, tout reste sur place.
Vous avez une Sainte Vierge qui veille sur votre jardin.
Sur les outils du jardin, surtout. Belle journée à vous et bonne continuation.
Au revoir, merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Voilà, il y a une Sainte Vierge dans le jardin de Patrick et peut-être le fantôme de l'abbé Lemire. Ça, c'est le vif de l'histoire tout de suite. Le temps de vous rappeler que le feuilleton Une semaine dans leur vie, celui-ci et les autres, peut être réécouté sur franceinter.fr et les bonnes plateformes de podcast. Réalisation, Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Alors, il faut vous dévoiler un peu les coulisses de ce 13-14. Les enfants ont le père Castor. Nous avons Jean Lebrun, l'homme qui connaît toujours le détail supplémentaire pour raconter une bonne histoire. C'est ainsi qu'en écoutant ce très beau feuilleton de Cécile Bideau sur les jardins familiaux, jardins partagés cette semaine, tonton Jean s'est exclamé « Mais comment vous ne parlez pas de l'abbé Lemire, ancien député du Nord, propagateur des jardins familiaux ?» Qu'à cela ne tienne, Père Castor, raconte-nous une histoire, l'abbé Lemire.
Ben c'est pas un détail, c'est la pierre fondatrice. Vous vous imaginez un homme grand, assez beau, fait pour parler, pour convaincre. Il vous décrochait une porte cochère de d'une façade, il la posait sur les tréteaux, il entreprenait la foule sur les marchés. Il était arrivé simple vicaire à Hasbrouck en 1878 et il n'a quitté cette ville de Flandre française que quand il y est mort en 1928. Il en avait été le député pendant un tiers de siècle, le maire pendant 15 ans, et cela par la force de sa conviction personnelle, car il ne voulait être membre d'aucun parti et surtout pas d'un parti catholique, parce que pour lui, le christianisme se disséminait, il était naturellement démocratique.
Les jardins familiaux étaient une œuvre démocratique.
Il n'en a pas été l'inventeur, l'Allemagne était pionnière, et puis une dame à Sedan, fabricante de textiles, Félicie Hervieux, lui a passé le flambeau. Le square parisien Abbé Lemire, près de Montparnasse, est traversé par une allée Félicie Hervieux, laquelle donc a passé la présidence en 1896, et c'est ainsi qu'a été créée la Ligue du coin de terre et du foyer à Hasbrouck. À la Chambre, Lemire défendait pour les plus pauvres le principe d'une petite propriété avec un lopin de terre insaisissable. Et le jardin familial, c'était une expérimentation de cette idée. Aux familles ouvrières coincées dans les logements urbains malsains, il offrait un bol d'air, des ressources complémentaires. Et toutes sa vie, il est allé visiter les terrains qui pouvaient s'offrir pour les jardins familiaux en même temps qu'il donnait des conférences pour multiplier les adhérents. Pas d'abbé Lemire, disait-il, sans train Lemire, pour le dépêcher aux quatre coins du pays.
Et c'était une personnalité d'envergure nationale, grâce aussi à son activité tous azimuts.
Quand la Troisième République s'est décidée enfin à donner aux prolétaires un peu de la dignité qu'implique leur citoyenneté, il s'est associé aux républicains avancés et aux socialistes. Jaurès, que vous citiez tout à l'heure, sur tous les fronts du droit du travail. Diminution de la journée ouvrée 11 heures, repos hebdomadaire, limitation du travail de nuit des femmes et des enfants dans les usines à feu continu, et jamais son électorat populaire du Nord ne lui a manqué.
À l'époque, il pouvait y avoir des prêtres à l'Assemblée qui siégeaient en soutane, mais la hiérarchie catholique ne les acceptait que parce qu'ils pouvaient servir ses intérêts.
Oui, mais Lemire entendait son mandat autrement. Et quand la querelle de la séparation a éclaté, l'abbé n'a soutenu que modérément sa hiérarchie. Au fond, il trouvait que la séparation, c'était plutôt une bonne chose. Il en contestait seulement la préparation. Et quand la loi finalement équilibrée fut votée, il aurait voulu qu'elle fût appliquée. C'était pas le point de vue du pape au Vatican, ni celui du clergé intransigeant qui se voyait dépossédé de ses moyens traditionnels d'existence. Et Lemire fut crossé, traité de défroqué moral, déclaré suspens. Il ne pouvait plus célébrer la messe. Le curé d'Hasbrouck lui refusait obstinément la communion. Mais l'Assemblée, qu'il appréciait particulièrement, répondit en l'élisant en 1913 vice-président, et en 1914 la population du Nord renouvela son mandat de député, le portant même à la mairie d'Hasbrouck. Alors on imagine la tête que fit le curé.
La Grande Guerre opéra une réconciliation. Il était fondamentalement homme de réconciliation.
Hasbrouck reçut quantité de soldats britanniques et australiens, jusqu'à des travailleurs chinois. Les Allemands la bombardèrent, il fallut un moment l'évacuer. Le curé et l'évêque devaient bien composer avec le maire, dont l'attitude fut remarquable. Le nouveau pape Benoît XV leva la sanction ecclésiastique et la fin du parcours de Lemire fut plus tranquille. Il en a profité pour devenir plus autoritaire. Il était en campagne pour son 9e mandat quand il mourut. Sa maison est devenue un modeste musée et sur la façade, un lion veille sur un lièvre. Hasbrouck, en flamand, c'est le marais du lièvre. As, le sens est clair. Le fort doit protéger le faible. Alors le bon, l'abbé Lemire est oublié maintenant, malgré la grande thèse que lui a consacrée autrefois Jean-Marie Mayer, mais Hasbrouck est habitué à l'oubli. Céline, dans son roman inédit qui vient de paraître, nomme la ville perdue sur la Lys. et de quelqu'un qui était limogé, envoyé en exil, on disait parfois qu'il était Hasbrouqué. Tout de même, Bruno, vive Hasbrouck, foyer des jardins familiaux et qui entend le rester.
Voilà cette histoire racontée. Intelligent service demain, Jean.
Eh bien, demain, nous parlons de Pier Paolo Pasolini qui a beaucoup figuré à Cannes.